Pour ce qui concerne l'islam et le rapport avec sa tradition, il est sûr que dans la situation actuelle, c'est, je dirais, le rapport le plus figé et le plus conventionnel, si nous avons à le comparer aux approches qui peuvent être faites au sein du christianisme ou du judaïsme. Mais les tentatives, les essais et les méthodes critiques n'ont pas manqué quant à l'approche de l'islam à notre époque, et pas seulement dans la tradition orientaliste. Un de ceux qui ont mené ce travail depuis, je dirais, quelques décennies, et Mohamed Al-Koun, qui est notre invité de ce soir. Bonsoir, Mohamed Al-Koun.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite de la Sorbonne Nouvelle. Oui. Vous avez mené toute votre carrière en Sorbonne.
En Sorbonne, oui.
Vous avez commencé très tôt,
je crois. Et aussi quand même dans d'autres universités à travers le monde, où j'ai été visiting professor, en particulier aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique.
En Hollande,
3 ans. Oui.
Et maintenant, depuis que vous êtes libéré de votre poste, oui, l'activité à l'étranger devient centrale.
Plus intense, oui.
Surtout dans le monde anglo-saxon.
Oui, et surtout aux États-Unis. Actuellement, je suis conseiller scientifique à la librairie du Congrès, qui est un lieu merveilleux pour la vie intellectuelle et la vie de la recherche, et qui est aussi un lieu de contact avec la tête des États-Unis, c'est-à-dire le Congrès.
Et je crois que vous avez été même consulté par les sénateurs suite
aux
derniers événements, septembre. Il y a eu une consultation technique de votre part.
Oui, exactement. Nous avons parlé des problèmes de la pensée islamique aujourd'hui. Comment cette pensée réfléchit sur tous les défis de l'histoire que connaissent toutes les sociétés contemporaines, mais tout particulièrement les sociétés qui se réfèrent à l'islam comme modèle de production de notre histoire contemporaine. Le seul fait de dire ceci pose d'énormes problèmes, parce que se référer à un modèle islamique, celui institué au début du 7e siècle à Médine, pour le reproduire aujourd'hui dans notre environnement scientifique, culturel, politique, juridique, ça pose d'énormes problèmes. Parce que cela postule ou une connaissance historique réelle de ce qui a pu se passer à Médine entre 610 et 632, ce que nous n'avons pas du tout. Nous avons des études, nous avons des recherches, mais elles ne garantissent absolument pas une connaissance suffisante pour que nous puissions nous référer à un modèle établi. Ou bien il y a l'autre voie que les sociétés musulmanes sont en train de suivre, au moins depuis l'irruption de ce qu'on a appelé la révolution islamique avec Khomeini.
Mais dès avant, le phénomène a commencé, disons, vers 1930 à peu près.
Ah oui, ça c'est le mouvement des frères musulmans. Ce mouvement des frères musulmans a abouti...
Oui,
il a grandi, disons. Il a connu une expansion, mais une expansion de type idéologique.
Ce qu'on pourrait appeler...
Pas une expansion ni spirituelle au sens religieux, ni encore moins intellectuelle au sens d'une réflexion et d'une approche fondée sur... à la fois la connaissance scientifique et une réflexion sur cette connaissance.
Et vous insurgez, bien sûr, à raison, face à cette émergence de tous ceux qui, actuellement, en islam, s'autorisent pour procéder à l'exégèse sauvage.
Oui.
Ou même, je dirais, les critères de l'autorité tels que établis par la tradition sautent. Et dans l'ouvrage collectif qui a pour titre « Christianisme, judaïsme et islam, fidélité et ouverture », publié aux éditions du CERF et qui reproduit les actes d'un colloque.
Oui, ça a été dirigé par Mgr Doré, qui est actuellement archevêque à Strasbourg.
Et là, votre intervention est extrêmement importante. Avant d'en venir à l'intervention scientifique, entre guillemets, qui est la vôtre, vous faites une improvisation, mais écrite évidemment par la suite, actualisante.
Oui.
Et vous vous référez directement, parce que là vous êtes à tout point de vue, je dirais, concerné, à la fois en tant qu'islamologue, en tant que musulman, et en tant qu'Algérien, du Djourdjoura,
oui.
C'est-à-dire là où a eu lieu les funestes et atroces crimes menés par le GIA. Oui. Et vous soulevez, alors là, très très précisément, le problème, comment oui. ces crimes, et notamment ces crimes contre des chrétiens et les moines chrétiens,
surtout, et surtout des moines,
comment ils se sont autorisés, ces criminels, du verset 29 de la sourate 9,
exact.
Pour accomplir leur crime.
Pour accomplir cette horreur.
Alors, oui. ce verset, votre réponse,
l'histoire de l'Algérie, depuis 1954, que j'ai vécu intensément, j'étais étudiant lorsque la guerre d'Algérie avait éclaté, et j'ai donc participé à cette page d'histoire. Ensuite, l'indépendance, et ce qui a été fait durant l'indépendance, de 1962 jusqu'à maintenant, m'ont amené à introduire une autre approche de l'islam que j'appelle l'islamologie appliquée. C'est-à-dire qu'il arrive un événement comme celui-là. Les journaux nous annoncent que six moines de Tibhiren, qui vivaient à Tibhiren en Algérie depuis très longtemps, dans la paix et dans la communication avec la population locale, ont été égorgés. C'est une nouvelle terrible. Terrible pour quelqu'un qui réfléchit d'abord au rapport avec notre propre culture et nos rapports avec cette religion que tout le monde mobilise. Comment réagir en tant que historien de la pensée islamique et un historien qui appartient, comme vous l'avez dit, à l'Algérie où s'est déroulé l'événement? Comment réagir?
Même à votre berceau, votre enfance,
oui,
est là.
Exactement,
vous
oui,
vous rendez
fait.
Hommage à vos maîtres chrétiens qui vous ont formé.
Oui, oui. Donc, j'ai été amené à faire cette réflexion et à prendre ce verset 29, et c'est un verset où il est question des rapports avec les Ahl al-Kitab,
les gens du livre, donc.
Les gens du livre, c'est-à-dire les juifs,
concept auquel vous attachez une très grande importance d'ailleurs.
Oui, tout à fait, oui. Dans ce verset-là, les Ahl al-Kitab sont soumis à un impôt de capitation qui va rester durant tout le Moyen-Âge et qui va être appliqué par le droit musulman aux juifs et aux chrétiens avec le statut que l'on appelle de dhimmi, c'est-à-dire de protection juridique des confessions juives et chrétiennes sous l'autorité d'un État musulman. Donc, bon, je ne vais pas raconter toute l'histoire qui s'est passée au sujet de la dhimmitude qui redevient d'actualité parce qu'on écrit sur la dhimmitude, les juifs en particulier rediscute cette question dans le contexte actuel des combats Israël-Palestine, etc. Donc il y a toutes sortes de ramifications extrêmement actuelles de quelque chose qui est extrêmement ancien. Et notre drame, c'est que nous ne savons pas lire des textes très anciens pour les resituer dans la culture, la psychologie sociale, la mémoire, non pas historique, mais la mémoire mythique, car il n'y a que la mémoire mythique qui pouvait fonctionner, non seulement dans la société arabe de ce temps-là, mais dans toutes les sociétés du monde. Et ici, la notion de mémoire mythique est extrêmement importante pour lire justement ces textes, alors que ceux qui sollicitent aujourd'hui ces textes pour légitimer un acte comme celui-là lisent ces textes au tout premier degré. Il nous faut aujourd'hui, lorsque nous parlons des religions, chrétiennes, musulmanes, hindouistes, bouddhistes, de ces choses très lointaines, nous devons d'abord nous armer d'une différenciation très nette entre le fonctionnement de l'esprit humain dans le cadre d'une culture mythique et son fonctionnement dans le cadre d'une culture historique critique qui est une acquisition récente de la connaissance, je dirais depuis le 18e, 19e siècle en Europe, mais pas ailleurs.
À travers la tragédie algérienne, une autre continuité s'affirme, là je ne fais que vous citer Mohamed Harkoun, celle d'un djihad, guerre sainte, toujours présenté depuis la même sourate 9, comme la violence nécessaire, salvatrice, sacralisante, imposée par un adversaire qualifié d'ennemi de Dieu, sourd et ingrat, devant la dette de sens contractée par tous les hommes auprès de lui.
Oui.
C'est une lecture terrible et justement décontextualisante.
Exactement. Alors, il s'agit de réfléchir sur ce terme « djihad » qui fait fureur depuis, moi je dirais, depuis la guerre d'Algérie, parce que les Fellaga, comme on les appelait en ce
temps-là,
d'un côté, étaient vus comme des fidèles du djihad qui pratiquent la guerre sainte contre l'infidèle européen. C'est-à-dire que cette perception de l'islam n'est pas liée à l'événement du 11 septembre, c'est une perception ancienne. Et même au Moyen-Âge, déjà, avec les croisades, cela se faisait. Mais ce que l'on appelle djihad du côté de l'islam, c'est ce qu'on appelle la guerre juste en termes de théologie chrétienne lorsque les chrétiens entreprenaient les croisades. Et le concept théologique de guerre juste a été théorisé par un de nos ancêtres, Saint Augustin, en Afrique. Car l'Afrique, et cette même Algérie dont nous parlons, a été chrétienne, catholique. Et Saint Augustin, le grand Saint Augustin, a enseigné le catholicisme. Et avec sa très grande ouverture et sa puissance d'analyse, et il a parlé de guerre, et de guerre juste, vis-à-vis, en ce temps-là, des infidèles qui ne pouvaient pas, évidemment, entrer d'emblée dans la bonne nouvelle qu'annonçait l'Évangile. Je dis cela, je rappelle cela, pour nous sortir, nous délivrer de cette projection sur l'islam d'un djihad offensif qui serait particulier à l'islam, qui serait un enseignement spécifique, consubstantiel à l'islam comme religion, comme me l'ont dit la plupart des journalistes qui m'ont souvent interrogé.
Nous savons qu'historiquement, évidemment, il y a l'équivalent du djihad dans la tradition chrétienne. Le seul problème, c'est que maintenant, avec tous les mouvements extrémistes qui se réclament de l'islam, jusqu'à ceux qui ont mené l'attentat suicidaire du 11 septembre, restaure, je dirais, ce concept médiéval.
Oui, alors justement, nous ne devons pas nous enfermer dans un Moyen-Âge chronologique. C'est pour cela que je transfère la problématique du djihad et de la guerre juste, car pour les musulmans, le djihad, c'est la guerre juste, exactement comme pour les chrétiens. Chacun voit sa vérité et défend sa vérité et justifie les entreprises guerrières par cette vérité, justement. Alors, je transfère les deux concepts, guerre juste ou djihad en arabe, vers ce que j'appelle un triangle anthropologique. Ce triangle anthropologique, c'est la violence, le sacré et la vérité.
Vous extrayez ce triangle, encore une fois,
de l'analyse,
de ce verset 29 de la sourate
9. Non, pas seulement ce verset n'est pas isolé. Il y a plusieurs versets qui traitent du djihad dans le Coran. Et qui traite explicitement du djihad. On n'a pas le temps de détailler l'ensemble des versets et comment il y a une progression dans la définition du djihad dans le Coran. Et je rappelle que cette sourate dont nous parlons, la sourate 9, est la dernière qui a été révélée, car il y a un ordre chronologique des versets coraniques.
Mais vous rappelez très souvent dans les commentaires que vous faites, que vous établissez sur le Coran, d'une science traditionnelle,
oui,
qu'on appelle les raisons de la descente,
oui,
c'est-à-dire
asbab
nuzul, les contextes mêmes,
oui,
les circonstances
de la révélation.
Ce qui semble de nos jours être balayé par l'oubli chez ceux-là même qui sont
attaqués
sauvages à la lettre.
Exactement, c'est pour cela que je parle d'exégèse sauvage que n'importe qui peut venir improviser et appliquer par des actes qui peuvent être aussi horribles que ceux, maintenant, on peut parler au pluriel, qui ont été perpétrés un peu partout.
D'Algérie jusqu'à Manhattan.
Exactement, d'Algérie jusqu'à Manhattan, mais aussi en Iran, au Pakistan, un peu partout. Le terrorisme existe dans les pays musulmans eux-mêmes, et ne s'attaque pas toujours aux pays occidentaux, comme on le laisse croire là aussi.
Donc la démarche qui est la vôtre en tant que savant, en tant qu'érudit, où vous cherchez à, par exemple, réfléchir, à mettre en perspective, pour le croyant que vous êtes, la nécessité d'historiciser la constitution, par exemple, des traditions prophétiques en islam.
Oui.
Le fait même aussi de distinguer entre ce que vous appelez le Coran établi en texte par un État, c'est une décision d'État,
oui.
Vous en faites la démonstration, et le texte révélation et qui crée ce rapport direct entre
oui.
Dieu et le prophète par l'intermédiaire de l'ange. C'est-à-dire ce passage de l'oral à l'écrit, tous ces phénomènes d'historicisation
oui.
qui sont nécessaires pour vous en
oui.
tant que savant, ont lien en quelque sorte avec le combat contre cette nouvelle idéologie au nom de l'islam.
Oui. Alors, vous venez de dire que je suis croyant, il faut dire plutôt que je problématise la croyance, c'est-à-dire je rends la croyance religieuse problématique, c'est-à-dire qu'elle doit se poser, elle est obligée de se poser des problèmes pour montrer en quoi, aujourd'hui, on peut continuer à croire dans le caractère normatif des versets du Coran, mais aussi des textes bibliques, des textes évangéliques, des textes bouddhistes, des textes hindouistes, etc. Autrement dit, je travaille sur le fait religieux. Je ne travaille pas uniquement sur la tradition islamique. Je prends la tradition islamique comme exemple, parce que je suis spécialiste de l'islam, et bien entendu, j'appartiens aussi à l'histoire des sociétés où l'islam a nourri le développement historique de ces sociétés, mais je le fais en ouvrant des perspectives qui ne s'ouvrent pas encore, surtout dans l'enseignement que les sociétés musulmanes donnent de l'islam, ouvrir les perspectives sur ce que aujourd'hui peut signifier une religion, quelle que soit cette religion, mais en particulier l'islam, parce que l'islam est passé aux politiques. Parce que l'islam lance des défis d'ordre politique. Il ne se contente pas de s'exprimer pour le privé de la personne, car la croyance est quelque chose de privé.
Mohamed Harkoun, vous avez parlé à l'instant de cette dimension politique de l'islam. Évidemment, c'est devenu un stéréotype, et un stéréotype qui personnellement me révolte,
puissant,
où on dit que c'est dans la fatalité même de l'islam, cette consubstantialité du politique et du religieux.
Et je voudrais revenir à la formule que j'ai introduite, mais que je n'ai pas suffisamment expliquée. J'ai dit que le triangle anthropologique violence sacrée et vérité est extrêmement important pour expliquer ce qui se passe, non seulement dans les religions traditionnelles qui ont enseigné aux fidèles une conception exclusiviste de la vérité, en ce sens que chaque religion revendique le monopole de la vérité donnée par Dieu, et par là exclut les autres formulations de la vérité. Et c'est ainsi que les juifs ont été exclus par les chrétiens lorsque le christianisme a réussi dans l'histoire. Et il a fallu attendre Vatican II en 1965 pour que l'Église catholique révise sa théologie au sujet de la place des juifs dans l'histoire de la révélation faite à Moïse auparavant et continuée par un juif, Jésus. Eh bien, l'islam a fait la même chose. Et
malgré une reconnaissance,
cette notion de vérité monopolisée,
malgré une reconnaissance relative quand même
oui,
à l'islam,
oui, mais quand même Dinul Haqq est une expression utilisée dans le Coran,
la religion de la vérité,
la vérité ultime de la vérité, et qui est unique, qui ne peut pas être partagée. Elle est celle que définit le Coran. De la même façon, les chrétiens, les juifs, etc., vont dire la même chose. C'est pour cela que je renie la violence qui commande l'histoire des sociétés à cette notion-là de vérité. Et c'est la modernité qui va venir corriger cette définition rigide, monolithique, exclusiviste de la vérité. Mais nous constatons que les enseignements de la modernité, qui relativisent la notion de vérité et qui nous enseignent l'existence de vérités plurielles, qui se manifestent de diverses façons dans des cultures et des trajectoires historiques humaines très différentes. Il semble que cet enseignement de la modernité est échoué, puisque nous constatons que la conception monolithique de la vérité continue d'engendrer une violence dans les sociétés, et une violence qui divise les sociétés elles-mêmes, comme par exemple ce qui se passe en Algérie dans la seconde guerre civile, celle que nous vivons depuis 1991, et elle se dirige aussi contre d'autres sociétés qui continuent d'être perçues comme des sociétés d'infidèles qui sont hostiles à cette vérité révélée par Dieu. C'est ce lien entre la perception de la vérité que définit le théologien, mais que définit aussi l'idéologie moderne. Lorsque les soldats français en 1914 mouraient avec gloire, un sentiment de gloire, un sentiment d'accéder à un honneur extrême, mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort, écrivait Corneille, en relation avec la définition de l'amour de la patrie sous les Romains, mais continuer dans une culture laïcisée. Alors nous voyons que la notion de violence, la notion de guerre juste, liée à la notion de vérité, sacralisée, d'où le sacré qui est au milieu des deux, du triangle, violence, sacré, vérité. La guerre sainte que je mène, la guerre juste que je mène, est une guerre sacrée. Elle est sacrée parce qu'elle est au service de la vérité donnée par Dieu à tous les hommes à travers moi qui la porte et qui ai reçu la responsabilité de la porter du fait que moi je me suis converti à l'islam avant les autres, au judaïsme avant les autres, au christianisme avant les autres, et il m'appartient. C'est ainsi que fonctionne le triangle jusqu'à maintenant, malgré l'intervention, je le répète, de la modernité. Voilà pourquoi dans la modernité aussi, le triangle fonctionne.
Mais disons, malgré tout, d'une manière, je dirais, plus modérée, le problème que nous avons actuellement est, disons, bien plus aigu en islam, en raison probablement de la non-émergence, oui, justement, de la pensée critique. C'est, oui, le moins qu'on puisse dire.
Exactement, exactement. Il faut expliquer pourquoi cette virulence du triangle que je viens d'expliquer de la part de l'islam...
Son exacerbation.
Oui, mais nous trouvons la même virulence de la part de l'hindouisme, où Gandhi, quand même, nous a enseigné...
Là aussi, nous avons un étonnant mythe de pacifisme.
Oui, exactement, le mythe de la
face à une religion qui peut avoir une immense violence politique, comme c'est le cas de nos jours.
Il y a aussi une dérive due aux mêmes raisons historiques, aux mêmes facteurs historiques, qui ont fait que l'islam dérive idéologiquement. Il dérive dans le fantasmatique et pas seulement dans le mythologique.
Alors,
pas seulement dans l'idéologique.
Mohamed Harkoun.
Et ça, il faut l'expliquer, mais pour l'expliquer, il faut plusieurs émissions de ce type. Je parle avec trop de rapidité.
C'est vrai.
Et je suis sûr que les auditeurs ne suivent pas tout à fait le fil que je voudrais qu'ils tiennent de leurs mains, si je puis dire.
C'est vrai qu'on voudrait développer, mais au moins, puisque nous arrivons, là, nous parvenons au terme de l'émission.
Et malheureusement, oui,
tu Mohamed vois, Harkoun, vous voyez le... Oui. Ce qu'il nous faut, c'est peut-être un indice, je dirais, d'explication pour cette exacerbation de la violence en islam.
Oui, l'indice rapide, c'est celui-ci. Jusqu'en 1945, la totalité du monde musulman, de l'Indonésie jusqu'au Maroc, de la Tchétchénie qui fait parler d'elle jusqu'à l'Afrique du Sud, car l'islam est partout présent sur la planète. Depuis 1945, il y a eu émergence d'États après les indépendances. Ces États-là n'ont aucune espèce de référence historique à un État antécédent. Pas seulement parce que l'occupant colonial ou colonialiste l'a éliminé, comme on nous dit, mais parce que l'État islamique, pour le retrouver, faut remonter au califat, ou bien à l'Empire ottoman, au sultan ottoman. Mais ces modèles politiques de l'État sont rendus obsolètes par la modernité. La modernité est là, depuis le XVIIIe siècle. Les démocraties sont là, sous nos yeux. Elles fonctionnent sous nos yeux. Alors, il y a le problème de l'État, le problème du politique, que les musulmans n'ont pas géré jusqu'à présent. Ni les musulmans sécularisés, ni les musulmans qui se réfèrent, comme on l'a dit au début, au modèle islamique de Médine, au temps du prophète. Mohamed et donc, il y a une crise totale de la pensée politique à laquelle il faut ajouter les multiples crises, comme la crise sociale provoquée par la démographie et le manque de ressources économiques pour prendre en charge une démographie inédite dans l'histoire des sociétés. Alors, grosso modo, c'est tout cela qu'il faut analyser de plus près et quitter, par conséquent, ce fantôme de la religion qui serait la source de tous les maux et de toutes les exactions et de tous les fanatismes. Il faut élargir l'analyse et regarder ailleurs et rechercher ailleurs méthodiquement les explications à ce qui nous arrive.
Merci Mohamed Harkoun. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb. Technique Christian Fontaine. Réalisation Olivier.
Pouvez-vous vous rappeler comment vous avez vécu le jour du 11 septembre?
Ah oui, ça je me rappelle. Oui, le 11 septembre 2001, j'étais à Casablanca, où je passe l'été généralement. Et puis je travaillais, comme d'habitude, j'écrivais, et puis soudain ma femme m'appelle. Elle-même a reçu un coup de téléphone de son frère, lui disant « ouvre vite la télévision ». Alors elle ouvre la télévision, elle voit... D'habitude, elle ne me dérange pas quand je travaille, puis là, elle m'a dit « vite, 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 viens voir ». Alors voilà, ça a commencé. Et à partir de là, on est resté pratiquement toute la journée à regarder et à suivre les événements. Alors, la première idée, c'est que c'était un accident, mais un accident fou, incroyable. Premier avion, c'est un accident. Puis quelques mois après, deuxième avion, là, c'est pas possible. Et puis très vite, on a pris conscience qu'il s'agissait bien d'un attentat. Surtout qu'ils ont annoncé le troisième qui se baladait du côté de Washington. Alors attentat, mais c'est tellement spectaculaire, qui peut faire une chose pareille? C'est la deuxième question, le deuxième étonnement, qui peut faire une chose pareille? Personnellement, je ne pensais pas du tout à Ben Laden, parce que c'est trop compliqué pour que ce soit réalisé. Je ne peux pas imaginer que Ben Laden dispose d'une logistique et d'une équipe capable de conduire une opération aussi compliquée. Et puis, à mesure que les choses avançaient, d'ailleurs, la télé elle-même ne faisait pas du tout d'hypothèses encore. Ils ont mis du temps, je crois, à faire des hypothèses. Et puis, petit à petit, on s'oriente vers l'idée que c'est un attentat organisé par Ben Laden, mais le doute a persisté longtemps. On n'a pas pu y croire, et puis ensuite la rumeur, puisque j'étais à Casablanca, Maroc, pays arabe, musulman, c'est une manigance, c'est pas possible, donc on faisait toutes sortes d'hypothèses, mais on écartait la possibilité que des arabes musulmans puissent faire une chose pareille.
Et maintenant, que signifierait pour vous cet événement, un an après?
Oui, alors d'abord j'ai écrit un livre sur le 11 septembre, qui va paraître
bientôt.
Oui, oui, ce mois-ci, oui. Au mois de septembre, justement, et qui sera publié par Desclés de Brouwer. C'est une discussion qu'on a avec Joseph Maïla. Vous connaissez Maïla?
Oui,
oui, c'est un Libanais. Et donc, on a réfléchi là-dessus et on a essayé d'analyser à la fois du côté occidental et du côté arabe pour ne pas répéter ce que disent les politologues. Parce que moi, je ne suis pas un politologue, je m'intéresse à ce qui se passe du côté des pays arabes et de l'islam en général. Parce que moi, une fois que j'ai réalisé qu'il s'agit bien de Ben Laden et il s'agit bien d'une attaque terroriste, donc ça s'inscrit dans une stratégie de lutte, de protestation contre l'Occident, etc. J'ai commencé à réfléchir sur la question du terrorisme à ce niveau-là. Parce que le terrorisme, malheureusement, existe depuis longtemps. Et puis, nous connaissons le terrorisme personnellement en tant qu'Algérien. Le terrorisme en Algérie fait des ravages depuis maintenant près de 12 ans. Alors, à cette échelle-là, s'attaquer à la puissance américaine et au cœur même de New York et de Washington, ça prend une dimension stratégique en tant que concept. Ça n'est pas une simple protestation, ça n'est pas une simple attaque ponctuelle terroriste. Le concept est très très fort. Parce qu'il prend pour cible l'Amérique, qui n'a jamais été prise pour cible, et il utilise des lieux très symboliques de la puissance américaine qui donne à l'Amérique la possibilité de faire une géopolitique du monde à sa guise, surtout depuis la fin du communisme, etc.,
de la guerre froide.
Alors, en tant que concept, c'est très impressionnant comment il a pu monter une telle idée, l'opération logistique d'une part, mais aussi l'opération conceptuelle, de s'attaquer à des symboles pour attirer effectivement l'attention sur quelque chose d'extrêmement important dans le monde entier et qui est la politique de la puissance des États-Unis. On maintient l'ordre par la puissance. On ne le maintient pas par des moyens économiques, une politique économique, par une politique de développement des pays laissés à la traîne. On n'essaye pas d'introduire un ordre politique fondé sur un minimum de justice, en particulier avec le problème palestinien qui continue. Et donc, en tant que concept politique, ça a de la valeur. Mais cette valeur est détruite par l'ampleur de la destruction, non seulement matérielle, et l'ampleur des conséquences économiques, pas seulement pour l'Amérique, mais pour le monde entier. Et en premier lieu pour les pays, justement, qui souffrent du sous-développement, de l'arriération, etc. Les conséquences également humaines pour un nombre de civils qui se trouvent pris dans les deux tours et qui disparaissent comme cela dans quelques minutes. Le concept en tant que vision stratégique d'une lutte contre le rapport des forces qui dirigent notre monde séduit l'esprit, mais les moyens utilisés pour servir ce concept et pour poser des problèmes qu'il est absolument nécessaire de poser dans le monde actuel, le prix payé est inacceptable.
donc on se trouve devant ce dilemme effroyable. D'une part, la légitimité politique qu'il y a à poser un problème au sujet de l'ordre du monde d'aujourd'hui et comment cet ordre-là est géré. Un ordre où il apparaît un an après que même l'Union européenne est mise à la marge par rapport aux États-Unis. Les États-Unis pratiquement décident absolument comme ils veulent au sujet de l'ordre du monde sans qu'il y ait aucune espèce de limitation. Ils recherchent évidemment des alliés pour donner un semblant de légitimité politique. Je n'ose pas dire de légitimité morale à la lutte, pas à la lutte, il faut bien faire la distinction entre le débat politique sur le monde et l'ordre du monde, le débat sur la géopolitique du monde et qui décide de cette géopolitique. Ça, c'est un débat qui doit se continuer et s'amplifier.
Normalement.
Parce que ce débat, en tant que débat politique, au niveau mondial, n'est pas ouvert. Et on ne voit pas comment on peut l'ouvrir. Puisque les initiatives pour ouvrir ce débat, elles-mêmes sont contrôlées, commandées aux États-Unis, et relativement par l'Europe aussi, parce que l'Europe quand même est partie prenante de la question de l'Occident face au reste du monde. Mais justement, avec le 11 septembre, nous découvrons que le rôle de l'Europe est extrêmement limité. Ça, c'est une découverte pour moi et pour aussi beaucoup de gens, parce qu'on pouvait concevoir que l'Union européenne, qui elle-même est une puissance assez importante, qui peut parler avec l'Amérique, d'autant plus que les pays européens font cause commune, c'est ce qu'on appelle l'Occident. L'Occident, c'est ce grand ensemble géopolitique où justement les États-Unis et l'Union européenne sont le noyau dur. Il y a aussi des États, des puissances comme le Japon qui font partie économiquement de cette unité géopolitique. Mais la grande unité, le centre de cette unité, c'est l'Europe et les États-Unis. Et donc mon problème à moi, ce qui me tracasse, c'est comment ouvrir un débat qui soit un débat très fort, un débat fracassant, utilisant tous les moyens de la critique politique, de la critique économique, de la critique philosophique, de la critique historique, de la genèse historique de l'ordre du monde, par exemple, tel qu'il est aujourd'hui. Un débat sur le droit international qu'il est absolument nécessaire d'ouvrir pour réclamer un nouvel ordre juridique international. Et pousser ce débat à utiliser tous les moyens du débat et du débat démocratique pour aller très loin et ne jamais s'arrêter dans ce débat jusqu'à obtenir des résultats. Je ne dis pas qu'on va résoudre le problème, mais au moins obtenir des résultats. Faire que, par exemple, la question du Conseil de sécurité change. Que le droit international soit respecté. Mais un autre droit que celui que nous avons hérité des traités du 19e siècle et du traité de la première moitié du 20e siècle. Le point le plus important, c'est justement de poser la question du terrorisme. La légitimité d'un recours à ce type d'action pour intervenir dans une situation qui devient intolérable pour tant de peuples, y compris en Occident lui-même. En Occident lui-même, nous voyons des gens marginalisés, de la pauvreté qui se développe, etc. Donc
ça n'est pas seulement dans les pays vraiment en paix. Et je trouve que cette question de la séparation, de la distinction entre l'action terroriste et l'action proprement politique et de la lutte politique par les moyens normaux de la lutte politique n'a pas été assez faite jusqu'à présent. C'est pour ça que j'y insiste. Et aussi, du côté musulman et arabe, je voudrais poser la question du terrorisme autrement qu'on ne la pose, parce que la question du terrorisme est banalisée.
Allez-y, posez-la.
Oui, du côté algérien, par exemple, voilà 12 ans que des gens meurent quotidiennement. Les Algériens vous disent, quand on leur demande qu'ils viennent ici, par exemple, on ne demande pas alors qu'est-ce qui se passe. Oui, il ne se passe rien, on vit normalement, la vie continue. C'est la banalisation totale de quelque chose qui est affreux, que l'esprit ne doit pas tolérer. Donc, du coup, je reviens au côté politique. Le débat, tel que moi je l'ai toujours conduit, à partir à la fois de la situation du monde arabe et du monde islamique, à l'intérieur de cette situation générale, comprend une lutte à l'intérieur de l'Occident, avec tous les moyens de la lutte à l'intérieur de l'Occident, mais en même temps, et sans jamais les séparer, une lutte à l'intérieur du monde arabe pour également exiger des régimes politiques dans tout le monde arabe et dans tout le monde musulman, exiger d'eux qu'ils fassent aussi des révolutions intérieures avant d'aller à New York faire ce geste absolument spectaculaire et terrible aux conséquences considérables. Alors je trouve que du côté justement arabe, je vais dire arabe surtout parce que mais le monde musulman est impliqué. L'histoire du monde arabe depuis la Deuxième Guerre mondiale n'a pas donné lieu ni à des écrits critiques qui fassent le bilan critique de 50 ans de politique conduite par des élites nationales arabes libérées du colonialisme. Et le débat politique lui-même est pratiquement inexistant. On suit les choses, on est une sorte de spectateur, on enregistre les cours, on entend les nouvelles chaque matin, mais on ne voit rien venir. Il n'y a pas d'intervention, pas seulement des intellectuels, des citoyens en général, des citoyens actifs du monde arabe pour poser la question politique, la question des régimes politiques, la question de la politique économique bien sûr, mais plus encore, à mes yeux, la question de la politique éducative et de la politique culturelle et scientifique. Et quand je dis scientifique, les sciences sociales en priorité, parce que c'est par les sciences sociales qu'on peut justement acquérir les armes nécessaires pour conduire un vrai débat politique dans le pays. Tout cela n'existe pas. Et il faut donc bien mesurer le vide du débat à quelque niveau qu'on le prenne. Je ne parle même pas du niveau parlementaire, ça n'existe pas chez nous. Et même ici, au niveau parlementaire, les questions de géopolitique dans tout l'Occident ne sont jamais discutées. Ni au niveau du Parlement, c'est la Commission des Affaires étrangères qui fait son travail en secret et qui décide en secret. Les citoyens ne savent rien, ne sont pas informés. Et il n'y a pas de débat sur la situation géopolitique du monde. C'est dans le secret des chancelleries, des ambassades, des affaires étrangères, des affaires étrangères. Donc il y a là une carence que le 11 septembre a dévoilé d'une manière insupportable. Et malgré les situations dramatiques créées par le 11 septembre, ça ne change pas. La politique étrangère continue de ronronner dans le secret feutré des chancelleries. On ne sait pas ce qui se passe et ce qui se décide. Et le débat n'arrive pas au niveau de la société. Là non plus, nous n'avons pas vu, même après le 11 septembre, de grands débats.
au sujet de la politique étrangère des grands pays démocratiques. Et qu'est-ce que veut dire la politique étrangère? Qui est cet étranger? Et quelle place donne-t-on à cet étranger dans une politique? Et quelle politique? Est-ce simplement la politique des échanges commerciaux pour vendre des marchandises et faire tourner les industries, etc., et la production dans les pays occidentaux? Ou quoi d'autre? À mes yeux, la politique étrangère doit absolument inclure désormais, et ça c'est le 11 septembre qui le montre d'une manière aveuglante, la question éducative doit faire l'objet d'une négociation internationale. Nous ne pouvons plus tolérer la souveraineté nationale dans un certain nombre de pays au sujet des décisions concernant le système éducatif, quoi enseigner, quelle histoire enseigner, comment enseigne-t-on l'histoire, comment enseigne-t-on la religion, en particulier dans nos pays. Parce qu'il est clair qu'un des aspects du terrorisme, pour moi, la genèse de l'idée terroriste, c'est le vide créé par un système éducatif qui n'ouvre, qui ne donne aucune clé pour lire le monde, et qui au contraire excite les imaginaires sociaux et politiques vers la haine, vers la violence, en laissant croire que par la violence, on peut changer l'état politique du monde, ce qui est absolument faux. Et ça, c'est mon premier argument très fort contre le terrorisme, contre toute idée de terrorisme, ni au bas de l'échelle pour aller égorger de pauvres enfants dans un petit douar ou village, petite meshta d'Algérie ou d'ailleurs, c'est absolument abominable, ni aller à New York jeter des bombes sur les deux tours. Parce qu'il y a derrière un vide intellectuel, un vide culturel, un vide des outils qu'il faut nécessairement posséder pour construire quelque chose de valide et de durable, politiquement, économiquement, socialement, monétairement. Quoi? Qui va faire cette politique? Où sont-ils ceux qui peuvent faire cette politique? Est-ce que c'est le personnel qui est actuellement au pouvoir qui peut faire cette politique? Et qui peut du jour au lendemain, s'il y a une révolution qui met tout cela à la porte, qui va prendre en charge la politique de tous ces pays-là? Il y a des questions qui ne sont pas posées. Et on va détruire, on fait quelque chose de spectaculaire, alors que ces questions ne sont posées ni en Occident, j'insiste sur les deux, ni en Occident, ni encore moins, et de façon encore plus tragique, chez nous.
Dans les pays musulmans.
Dans les pays musulmans, en général. Parce que l'Indonésie, par exemple, le Parlement indonésien vient de voter une loi qui supprime le quota des militaires qui siègent d'office au Parlement. Vous vous imaginez, depuis Sukarno. Depuis Sukarno, c'est-à-dire 47, depuis l'indépendance de l'Indonésie, ils ont institutionnalisé ce système. Et eux, au moins, ils l'ont institutionnalisé, tandis que d'autres, beaucoup d'autres le font sans l'avoir dit de cette façon-là. C'est-à-dire, parce que depuis le...
Justement, je veux vous poser une question, mais en revenant sur l'événement du 11 septembre, ma question c'est, quel effet pourrait avoir cet événement sur votre démarche intellectuelle? Il consistait, comme on le savait, et comme on témoigne l'ensemble de vos travaux, à repenser les fondements de l'islam en renouvelant les instruments d'analyse et l'appareil conceptuel qui serait plus rationaliste et plus apte à l'exercice d'une critique historique et épistémologique.
Oui, bah excellente question. Je suis content qu'on l'a posée comme ça, parce que justement, d'où vient mon attitude critique radicale dans ma manière de présenter l'islam et la pensée islamique depuis toujours? C'est très intéressant parce que mon point de départ, c'est la guerre d'Algérie. J'étais étudiant à Alger, puis ici à Paris, pendant la guerre d'Algérie, la guerre de libération, pas la guerre civile de maintenant. Et donc, en tant qu'étudiant, j'ai vécu très exactement, déjà, avec une intensité majeure, parce que c'est mon pays, c'est ma vie, c'est ma famille, c'est les miens, exactement la tension que je viens de décrire. Je n'ai pas attendu le 11 septembre. Je discutais avec mes amis algériens, comme Reza Malek, comme Ahmed Taleb, comme beaucoup d'autres qui sont devenus ministres, etc. Moi, j'ai pris...
Ahmed Harbi aussi.
Harbi, c'est évidemment...
Parce qu'il est aussi dans son livre.
Oui, oui, je sais, Harbi, parce que lui, je l'aime beaucoup, je l'estime, parce que sa démarche est magnifique. Parce que lui, il s'est engagé dans la politique beaucoup plus que moi. Moi, j'étais engagé intellectuellement, bien sûr, j'ai défendu l'idée nationale, tout ça, mais en même temps que je défendais l'idée nationale, déjà, je disais, qu'est-ce que nous allons faire quand nous serons indépendants? Quelle sera la politique de l'éducation que nous allons instaurer en Algérie après l'indépendance? Déjà, ça me préoccupait. Parce que j'étais déjà... je commençais à enseigner pour gagner ma vie et je voyais déjà les jeunes Algériens que j'avais au lycée, j'enseignais au lycée. Et donc, déjà j'avais cette démarche. Et déjà, ma démarche était réprimée par mes amis au nom de la stratégie du combat. Il faut d'abord sortir l'ennemi.
Et on verra après.
On verra après. Vous connaissez la chanson, et je l'ai vécu. Et je l'ai vécu dramatiquement. J'en ai souffert terriblement. Et c'est comme ça que je n'ai jamais mis le doigt dans la politique politique. Je fais de la politique, mais toujours à travers la recherche. Et à travers l'enseignement, je suis un enseignant. Et c'est là qu'est née l'idée de radicaliser la critique du nationalisme et la critique de la confiscation de l'islam comme religion pour des objectifs nationalistes et de pouvoir politique. Et aussi la critique de toute idée d'utiliser le terrorisme, car il y avait déjà du terrorisme pendant la guerre, il y a des Algériens qui ont tué des Algériens. D'utiliser le terrorisme pour une cause qui, comme je viens de le dire, n'a pas été préparée. Nous n'avons pas de référence historique, juridique, culturelle, etc., pour réagir au lendemain de l'indépendance devant la nécessité de construire un État moderne de droit. Je le savais et je voyais très bien qu'on allait à la catastrophe parce que je connais l'histoire d'Algérie, je connais l'histoire du Maghreb, je sais qu'il n'y a pas de référence. Pour construire un État, je ne peux pas me référer au califat ni au sultanat ottoman. Pour construire un droit moderne, je ne peux pas aller puiser chez Ibn Hanbal ou chez Shafi'i pour construire un droit constitutionnel moderne. Je le savais déjà. Donc le 11 septembre, pour moi, c'est un avatar parmi beaucoup d'autres qui souligne chaque fois de façon tragique le vide qui fait que on laisse croire au peuple que nous allons faire des choses, on va faire la révolution, etc. Alors que nous n'avons rien dans notre capital historique, dans notre capital intellectuel. Nous n'avons rien qui puisse nous permettre d'entrer dans la modernité et de construire un État moderne, des sociétés civiles modernes, partenaires d'un État de droit, et non pas ce que nous avons connu et que nous connaissons encore plus, et qui est devenu de encore plus tragique du fait de la démographie qui a multiplié par 30, 60, 70 les choses dont nous souffrions déjà quand nous étions 9 millions d'habitants en Algérie, comme au Maroc, et comme, ou 20, je sais pas, 30 millions peut-être, ou 25 millions en Égypte, quand Nasser avait pris le pouvoir. Donc, le 11 septembre n'a fait que dévoiler davantage une stratégie que peu d'entre nous avaient perçue, avaient mesuré la nécessité et se sont mis au travail pour l'exécuter. Nous sommes très peu. Je vous laisse le soin de désigner quels sont ceux parmi les intellectuels arabes qui ont défini cette stratégie comme je la définis là et qui ont essayé de la mettre en pratique avec constance. Je me rappelle lorsque, par exemple, pendant la guerre des six jours, en 67, les radios m'ont interviewé ici à Paris. Ben, ma réponse était comme pour la guerre du Golfe. Cette guerre est très mauvaise pour les Arabes. Nous allons y laisser des plumes. Parce qu'il n'y a pas d'armée aussi préparée que l'armée israélienne. C'est une question de force. Et à supposer que nous gagnions, nous ne serons pas en mesure de bâtir ce pourquoi cette victoire aura été arrachée. Et c'est ce qui s'est passé à plusieurs reprises. Donc j'inscris le 11 septembre dans cette suite d'événements qui sont non seulement dans ma mémoire, mais dans ma chair, dans ma vie.
Oui. Mais donc ça ne constitue pas un tournant,
le 11 septembre. Non, pour moi, nous avons vécu intensément cette expérience. Surtout pour les Algériens. Les Algériens qui ont vécu la guerre d'Algérie, à la fois politiquement, intellectuellement, moralement, historiquement dans leur tête, parce qu'ils connaissent l'histoire. Pour eux, il n'y a rien de nouveau. Il y a quelque chose de spectaculaire, bien sûr. Il y a quelque chose de dramatique. Et c'est pourquoi je parle toujours de tragédie historiquement et politiquement programmée. C'est un programme qui se déroule. C'est comme votre programme génétique. Vous avez la cataracte parce que c'était dans le code génétique.
Vous êtes un peu fataliste, là.
Mais ben, qu'est-ce que je voulais ? Non, c'est pas fataliste. C'est parce que quand vous voyez une continuité dans l'histoire, quelle est la continuité qui conditionne notre histoire dans le monde arabe ? La continuité, c'est justement le manque d'attention à la construction de l'État. On n'a jamais construit un État viable pour le futur. Le manque d'attention aux institutions juridiques et judiciaires qui organisent une société, qui donnent la colonne vertébrale à une société. Nous nous sommes contentés d'un droit construit au 8e et 9e siècle et nous nous sommes acharnés à gérer nos sociétés avec ce droit qui est un droit d'abord extrêmement limité à une petite classe de rien du tout qui n'a jamais pris en charge même l'ensemble de la ville de Bagdad au 10e siècle, jamais, même la ville de Bagdad elle-même qui était cosmopolite au 10e siècle, elle n'a jamais été prise en charge par un droit pour créer ce que nous appelons aujourd'hui un début de société civile. Les femmes, jusqu'à présent dans nos sociétés, ne sont pas incluses dans le droit. Elles sont hors du droit. Mais c'est terrible de penser ça. Et moi je sais tout ça. Je ne peux pas l'effacer. Et je le sais historiquement. Ce que je dis là, ce n'est pas de l'idéologie. Car je ne parle pas du présent. Je parle du présent en fonction d'un vide qui a été maintenu et creusé davantage au cours des siècles. Et ça, c'est une idée forte. Car si cette idée avait habité les jeunes qui ont suivi Ben Laden, ils ne seraient jamais montés dans l'avion. Ils auraient utilisé d'autres moyens et d'autres buts. Je ne dis pas qu'ils vont aller se coucher. Attention, et faites-le bien ressortir.
Ouais.
Je compte sur vous avez une belle plume pour ça. Et donc là, c'est capital. Cette expérience est capitale. Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Pour dire tout ça dans le livre qui va sortir. Le 11 septembre n'est pas un événement. Mais j'ajoute aussi dans le livre quelque chose de plus fort. Comment diriez-vous en arabe « avènement »
Khudoum, ou magie.
C'est pas assez fort.
Oui, avènement dans le sens de...
Parce que...
Shayatra.
Oui, par là, c'est quelque chose qui survient de façon inattendue. Mais l'avènement, c'est ce qui arrive enfin et qui a été longtemps attendu.
Oui, oui.
C'est comme on dit l'avènement du Messie.
Oui, oui.
J'ai pas trouvé de mot arabe.
Mais j'ai là,
moi j'aime Yahri. Parce que je fais un jeu sur la question que je pose. Qui peut aujourd'hui, dans le personnel politique, en Occident d'abord, puisque c'est l'Occident qui a l'initiative et la puissance, qui en Occident, dans le personnel politique, les chefs d'État de tous les États d'Occident, est capable de prononcer une parole qui change un événement inscrit dans une date, dans une chronologie, en avènement
de quelque chose,
d'un concept de l'histoire, d'une vision de l'histoire qui fasse rupture avec ce qui précède l'acte du 11 septembre. C'est en cela que je reviens à ce que j'ai dit au début sur le 11 septembre comme concept, comme vision politique et historique d'une autre politique pour l'humanité d'aujourd'hui. Je ne dis pas que Ben Laden a eu cette vision. Mais c'est à nous et à tout le monde qui soit capable de capter la rupture que cause cet événement fracassant. Pour dire cet événement-là, il casse quelque chose qui est insupportable et qui nous conduit depuis des années, des décennies et même des siècles, on peut remonter jusqu'au 16e siècle, jusqu'au 15e siècle. Il casse quelque chose. Et cassant quelque chose, il faut tout de suite prendre conscience et ouvrir un autre horizon de l'action historique. C'est ça l'avènement. Passer de l'événement circonscrit dans un lieu géographique, circonscrit dans un temps de l'histoire, pour en faire l'avènement pour l'esprit, afin que nous puissions avoir d'autres critères de production de l'histoire des peuples aujourd'hui. L'histoire des peuples, pas seulement, pas l'histoire des États contre les peuples. Les États contre les peuples. Nous vivons une histoire des États contre les peuples. Et nous l'acceptons. Et c'est ça. Alors là, c'est une révolution formidable. Parce que c'est une révolution intérieure. Voilà pourquoi j'ai proposé comme titre du livre, mais c'est en discussion, je ne sais pas si vous en aurez tenu. J'ai proposé le titre « Un événement en quête d'auteur ». Hadathun. يتطلب أو يبحث
عن فاعل
عن مؤلف مؤلف
فاعل
non فاعل c'est l'action il faut penser مفكر فاعل مفكر فعال Enfin, essayez de rendre ça en arabe, pas par un mot. Ça, c'est des choses qu'il faut donner à nourrir
Vous êtes encore dans la radicalité de votre réflexion, de votre entreprise plutôt critique, intellectuelle. Mais je veux vous ramener un peu dans la conjoncture. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, avec le regain de l'islamophobie en Occident, que sur les statuts même par-delà l'image courante de l'islam en Occident, c'est le statut même de l'islam en tant que religion, en tant que civilisation qui...
Oui, ça je... Bien sûr, ça je... Alors, vous venez de prononcer un mot, l'islamophobie. Comment j'approche la question de l'islamophobie? Je la vis. Parce que moi-même, on me met dans une boîte islamique. J'ai beau critiquer, vous montrer des horizons. Non. Muslim, mais vous êtes un musulman modéré. Ah oui. C'est comme ça que ça fonctionne. L'islamophobie, il faut l'aborder non pas par l'indignation devant l'ignorance des Occidentaux, ils ne veulent rien connaître à propos de l'islam, etc., etc. Non, ça c'est faux, ça c'est pas la mort. Parce que nous faisons la même chose à l'égard d'eux. Le 11 septembre montre bien qu'il y a une haine immense, une rage de détruire ce monde. C'est pas seulement des préjugés. Donc il y a quelque chose qui s'échange. Qui s'échange dans la haine, la violence, la négation de l'autre. Et c'est une dialectique qui s'intensifie. Elle s'intensifie dans la négation, l'élimination de l'autre, par tous les moyens. Les moyens de la propagande aussi bien que les moyens militaires de la force. Et ça grandit, ça se gonfle. Les imaginaires se gonflent. Et là aussi, qui intervient? De leur côté comme du nôtre. Pour dire arrêtons ce jeu. Voyons ce qui se passe. Alors là, moi, personnellement, et ça aussi je le fais depuis longtemps, c'est la déconstruction de la raison des Lumières. Et la critique radicale de la raison des Lumières. Il y en a marre d'appeler Voltaire contre le fanatisme religieux. Alors qu'eux-mêmes développent des fanatismes politiques pires que le fanatisme religieux. Donc, il faut creuser ça. Et nous devons le faire, nous aussi. On doit faire les deux travaux en même temps. Eux, ils ne feront jamais le travail pour nous. Personne ne le fera pour nous. Et ça, je l'ai découvert encore plus. À la librairie du Congrès, en mai dernier, j'ai eu un grand débat avec Bernard Lewis. Sur son livre, il a écrit un livre qui s'appelle « What Went Wrong ?» Qu'est-ce que tout le monde cite, évidemment. Alors, oui, j'appelle moi, Bernard Lewis, c'est « Mufti Diyar al-Arbiya » en islam. Je l'ai nommé comme ça, je les ai fait rire, mais c'est vrai. Dès qu'il se présente un événement, c'est « Monsieur Lewis écrit un livre et le rapporte la fatwa, voilà pourquoi ça s'est produit. » Donc on ne peut pas compter sur l'islamologie ou sur des experts de l'islam, machin, etc., pour faire ce travail, pour nous. Et la réponse la plus forte contre l'islamophobie, l'arabophobie et tout ce qu'on veut, c'est le travail à l'intérieur. Nous devons changer de discours à propos de l'islam. Car il y a des choses détestables que nous ne devons pas tolérer et que nous tolérons et qu'on n'écrit pas là-dessus. Même dans la littérature, la littérature, elle nous décrit les souffrances, elle nous décrit les douleurs, elle nous décrit... mais ça n'aide pas. Le geste littéraire de destruction de la structure symbolique du religieux, c'est Salman Rushdie qui l'a fait. Je ne vois pas d'autres écrivains, vous connaissez mieux. Est-ce que vous pouvez citer quelqu'un qui ait atteint ce niveau de critique par l'écriture littéraire de la symbolique religieuse elle-même? Et non pas dessus des périphéries et surtout ce que les gens subissent dans leur vie quotidienne. Ça n'est pas suffisant. Quant aux intellectuels, c'est terrible. Et je connais, je ne vais pas les nommer pour éviter la polémique, mais je connais des gens
qui sont considérés comme des intellectuels, mais qui apportent un soutien à l'utilisation de l'islam dans les dans des entreprises terroristes, tellement ils sont fondamentalistes. Et ce sont des gens dont on attendrait plutôt qu'ils écrivent des choses pour ouvrir l'esprit des musulmans, justement, à une connaissance un peu plus critique, un peu plus historique, de ce qu'est la pensée islamique, de ce qu'est la religion aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une religion aujourd'hui? Quelles sont les fonctions d'une religion aujourd'hui? Rien. Je ne lis rien là-dessus. Je lis des choses qui, comme ça, l'Occident nous déteste, l'Occident nous critique, l'Occident ceci, l'Occident cela, et nous nous sommes bien. Et l'islam est formidable. Et nous donne encore des outils pour pouvoir nous insérer dans l'histoire actuelle, etc. Mais c'est où allons-nous? Donc là aussi, il y a une carence. Et ma réponse à l'islamophobie, c'est la critique de la raison islamique, depuis longtemps. Et cette critique, malheureusement, n'est pas secondée, n'est pas prise en charge par un nombre plus grand. Il y a des jeunes qui s'y intéressent, mais malheureusement, ils sont
ça
pas...
Ça reste minoritaire.
Ça reste minoritaire, et puis ils n'ont pas les moyens de démarrer, les malheureux. Les bibliothèques chez nous, parce qu'il faut, quand même un minimum de choses pour faire ce travail. On ne peut pas l'inventer comme ça. On ne peut pas tenir simplement un langage de protestation, de critique formelle comme ça. Il faut le faire avec des outils.
Mais ne pensez-vous pas, puisque vous insistez sur la dimension symbolique des choses,
oui.
Je n'irai pas jusqu'à ce qu'a dit Baudrillard, mais je crois qu'il y a tout de même dans cette dimension symbolique quelque chose qui concerne la visibilité. La visibilité d'une entité ou même d'un individu, comme ça s'est passé. Vous avez fait allusion au début sur des actes terroristes qui ont été commis par des individus, imaginons ici.
Oui.
Vous ne pensez pas que c'est lié à une question de visibilité? C'est-à-dire il y a des systèmes qui accaparent, qui monopolisent la visibilité mondiale.
Oui. Non, mais moi je suis radicalement contre tout recours à l'action terroriste.
Moi aussi.
Non. Et je donne des raisons. Parce que l'action terroriste, d'abord, ça fait des dégâts qui ne peuvent pas être compensés. Enlever la vie à des innocents, il n'y a pas de compensation. Et pire encore, quand vous enlevez la vie à des innocents, et que, comme je l'ai expliqué, la soi-disant raison pour laquelle vous avez fait cela ne se réalisera jamais, et que des malfaiteurs, des mafias vont venir utiliser cet acte-là et accaparer le pouvoir pour faire une politique que nous connaissons maintenant, ça n'est pas possible. Il y a donc un impératif moral catégorique, kantien. C'est non et non. Ça n'est pas la voie. Deuxièmement, il y a l'histoire qui témoigne et qui dit: vous pouvez tuer la terre entière, vous n'allez pas changer fondamentalement les appétits, les instincts des hommes pour conquérir le pouvoir et le garder. Non pas pour le bénéfice de la condition humaine, mais pour le bénéfice simplement de satisfaire des appétits de pouvoir. Il y a des exceptions, heureusement, mais ce ne sont que des exceptions dans l'histoire. Donc, il n'est pas possible d'admettre l'acte terroriste. Et je ne peux absolument pas parler, c'est pour ça, dès le départ, j'ai fait bien la distinction
entre, encore une fois, la lutte politique par tous les moyens, l'acharnement dans l'opposition, justement au pouvoir dans toutes ses formes, y compris le plus démocratique, qui laisse tant de liberté, tout ça, il reste encore à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le fonctionnement des démocraties. Et plus encore, évidemment, des régimes ouvertement totalitaires. Donc il n'y a pas de place pour le recours au terrorisme qui est présenté comme le dernier recours, soi-disant, contre des gens qui ne veulent rien entendre. Et bien, ce dernier recours, c'est un pseudo-recours qui ne fait que des tragédies sans apporter la moindre solution positive pour l'avenir. Ça, c'est ma position, je ne peux pas le... Okay. Mais j'ai toujours désiré que des journaux importants comme le Hayat a pris de l'importance, et d'autres journaux aussi arabes ont pris de l'importance. Dieu merci, et je suis content, il faut le dire, que ces journaux qui ont une telle audience, importance, ils ont ouvert des pages culturelles. Ce qui est très bien, c'est positif. Je ne suis pas uniquement négatif. Et je salue toutes les fenêtres qui s'ouvrent et les portes si possible. Mais j'aimerais qu'ils aillent encore plus loin dans la radicalisation du combat. Un combat qui est inséparablement intellectuel, culturel et politique. Inséparablement. On ne peut pas séparer les uns des autres. Il y a bien sûr une hiérarchie entre ces trois-là. Et moi, comme je l'ai dit, je crois que c'est la meilleure voie, parce que c'est celle qui construit les bases d'une politique. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe au XVIIe et XVIIIe siècle? John Locke, Hume, Jean Bodin, avant eux, ont réfléchi sur l'État. De Léviathan.
Hobbes.
Oui. Et d'autres. Ils ont mis les bases intellectuelles et institutionnelles pour pouvoir avancer et avoir des références. Et l'État moderne n'est venu qu'au XVIIIe siècle. Il a commencé au XVIIIe siècle. Et il a commencé avec de la sauvagerie. Robespierre est un sauvage. Mais cette sauvagerie, il y avait quand même des textes que les gens lisaient. Il y a le contrat social, il y a l'esprit des lois que les gens lisaient. Voilà pourquoi il faut commencer par là. Il faut encourager ça. Il faut encourager les jeunes à parler dans le Hayat et à publier dans le Hayat et à dire ce qu'ils ont dans le ventre à propos de l'existence qu'on leur inflige. Et puis, la politique vient après. Et si on n'inverse pas, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons une hypertrophie d'un discours politique idéologique qui repose sur du vent. Et encore une fois, j'ai dit un mot sur la littérature. Je crois dans la force de la littérature. Je ne dis pas que les intellectuels vont faire le travail tout seuls. Et même les artistes, les écrivains, le cinéma, etc., peuvent faire beaucoup plus encore. Et c'est cela, il faut, je fais un appel pour ça. Et vous êtes bien placé pour le dire comme ça.
D'accord. J'y mange autant.